Fez et Alexis Sanson.
Que Québec se lève, OFM 93.
Allez, allez, allez.
La chaise est achetée, le spot est réservé sur Sainte-Catherine, ça sent la coupe!
Oh oui!
Et on peut dire que contre toute attente, le plus gros revirement de situation qui pouvait se produire dans la Ligue nationale de hockey, si tu veux mon avis.
Ben écoute, 2020 était assez bizarre, mais là, le Canadien qui bat les Pingouins, là.
Ça, c'est quelque chose, ouais. Oui. Les Canadiens de Montréal qui ont vaincu les Pingouins de Sydney, non pas la ville, mais le joueur. quelle partie de hockey hier! J'ai adoré ça, moi, d'ailleurs, la game à 4 heures de l'après-midi. Là.
Ouais.
J'ai vraiment aimé ça. Ça coupe un peu la journée en deux. Fait beau, c'est le fun. On regarde du petit hockey. Dis-moi, du hockey au mois de juillet, où, là? C'est quoi?
J'adore ça.
Plein de monde disait, hey, ouais, le monde n'écoutera pas ça. Hey, c'est-tu quoi? Moi, je l'écoute. En
ben oui.
Pendant les vacances avec ma blonde, je recherche ça.
C'est une façon différente de consommer le hockey. T'amènes ben, ça sur la terrasse. Let's go, justement. Petit 5 à 7. C'est parfait.
Ouais, exact. On parle de tout ça et de la partie d'hier, naturellement, avec Martin McGuire, descripteur des matchs du Canadien au réseau Cogeco. Salut, Martin.
Hey, bonjour à vous.
Martin, je dois dire que j'ai senti hier... dans parce que évidemment moi j'ai regardé la partie mais tout de suite après l'après-match sur Cogeco, je sentais quand même un petit enthousiasme. Peut-être le fun de savoir aussi que pour Danny et toi, vous allez aussi travailler en série là, tu sais, il y a quelque chose de trippant là-dedans.
Ben, il y a quelque chose de le fun, puis il y a quelque chose d'inattendu, ça c'est sûr, vous en avez parlé dans votre introduction. En fait, là, il y a eu deux petits miracles hier. Là. Il y a eu les Blackhawks de Chicago, qui étaient les favoris numéro 12. Il y a en fait les deux favoris numéro 12, les Canadiens dans l'Est, Chicago dans l'Ouest, qui ont renversé les favoris numéro 5. Alors, le dénominateur commun entre Chicago et Montréal, leadership, et surtout un gardien de but de premier plan qui a fait la job dans les deux cas. Je pense que vraiment, là, ce qu'on peut retenir de cette première ronde qui achève, là, avec Columbus et Toronto qui vont être poussés à la limite, entre autres, là, ce qu'on peut retenir, c'est que sans leadership, sans des joueurs capables de jouer un style de jeu propre aux séries, un style systématique, assez physique à la limite, et un gardien de but vraiment de premier plan qui va faire la différence au moment voulu, là. C'est à peu près, en tout cas, c'est très peu probable que vous puissiez y arriver comme équipe. Les équipes qui, excusez l'expression, ont débarqué, là, c'est les équipes qui n'ont pas eu de stabilité autant en défense que devant le filet.
Parlons-en un peu d'ailleurs de Carey Price, du gardien, parce que, évidemment, là, si on pense aux 10 dernières années, on peut en dire plein des affaires, ça a-tu marché, ça a-tu pas marché, peu importe. Mais on est obligé d'admettre que dans cette série qualificative contre les Penguins de Pittsburgh, Carey Price a été proche de parfait dans le travail qu'il devait faire.
Ben en fait, ce qu'il a confirmé, c'est que il est encore, le meilleur de sa profession. Écoutez, là, je pense que techniquement, ça, il l'avait montré depuis un certain bout de temps. Mais là, devant lui, il a une structure. Puis dans le point de presse hier, quand il a pris la peine de dire ce qui a fait la différence, c'est notre structure défensive. Je pense que là, en même temps, il passait un message. En fait, il renforçait le message que Claude Julien a probablement répandu dans le vestiaire du Canadien, et ce, dès le camp d'entraînement, avant que l'équipe se rentre dans la bulle. C'est-à-dire que si le Canadien ne joue pas ce système-là, systématique, très conservateur, avec beaucoup de pression arrière, là, il y a quelques équipes qui le jouent, mais le Canadien est assez bon là-dedans. Parce qu'ils ont une équipe rapide. Je pense que Price a passé le message en disant on a réussi à se qualifier pour les séries. Et si on veut avancer davantage, c'est notre seule chance.
Hey Martin, tu en as décrit des matchs de Carey Price depuis qu'il joue dans la Ligue nationale et avec le Canadien, mais je ne sais pas si tu as la même impression que moi, mais je l'ai senti, moi, agressif devant son filet, mais du bon côté. Il défiait les tirs, sortait de son cercle bleu justement pour défier les tirs, donnait des petits coups de bâton aux Ongvis et compagnie qui se présentaient devant lui.
Vraiment, c'était son propre ménage.
Oui, non, mais il était sa job avec les bottes à cap et sa boîte à lunch. Vraiment, il était agressif devant son filet. On le voyait rarement, ce Carey Price-là.
Ben, Moi, je vais vous dire que le Carey Price qu'on voit là, c'est le Carey Price que moi j'ai vu assez souvent. Très honnêtement, là, je vous répète encore une fois, la différence, elle s'est faite devant lui. Ce qu'on appelle le Big Three du Canadien, là, sans manquer de respect à l'autre, au vrai Big Three qui est au temple de la renommée, ouais. Là, Petrie, Chiarot, Weber, ont vraiment travaillé très fort devant lui. Moi, je pense que la différence, elle s'est faite là. Parce que Carey Price, comme tel, j'ai pas vu beaucoup de différence avec le Carey Price des autres années. Je pense que c'est l'appui qu'on lui a donné qui a été extrêmement différent. Quand le Canadien a joué à 5 contre 5, là, même au tout début de la série, Danny, dans nos reportages, avait soulevé des statistiques intéressantes. Après le deuxième match de la série, là, si on décortiquait attentivement, Claude Julien avait bénéficié de ses joueurs clés seulement un tiers du temps par rapport aux deux tiers du temps pour les joueurs clés des Penguins de Pittsburgh en termes de minutes de jeu. Et l'autre fait aussi qui est sorti des deux premiers matchs, c'est que si on excluait les moments où le Canadien s'était défendu en désavantage qui avait été très important dans les deux premiers matchs, ben à 5 contre 5, le Canadien au pointage gagnait la série déjà dans les deux premiers matchs. Alors, tu sais, on focus beaucoup sur Price, puis on regarde Price. C'est vrai, parce que au premier match, là, dans les 10 premières minutes, ça aurait pu être 4-0.
Ben oui.
Lui a fait en sorte que c'est resté 0-0 jusqu'au but de Kotkaniemi. Alors ça, ça a été un élément déterminant. Mais au-delà de tout ça, c'est vraiment le jeu collectif du Canadien qui, cette fois-ci, peut-être pour une première fois d'ailleurs, puisque vous avez ce que vous remarquez sur le jeu de Price, c'est peut-être le fait que pour une première fois depuis 2-3 ans, on lui a donné un appui de la sorte devant.
Martin, quand on affronte les Penguins de Pittsburgh, on affronte Sidney Crosby, Evgeny Malkin, Christopher Letang, des joueurs dans la trentaine qui ont gagné des Coupes Stanley, qui ont du talent encore, qui leur sort par les oreilles, mais en plus de l'expérience. Le Canadien de Montréal a aligné une équipe qui avait, oui, certains joueurs d'expérience, mais deux jeunes joueurs en particulier de 20 ans, Nick Suzuki, ouais, et Jesperi Kotkaniemi, qui, à mon sens, ont peut-être été les deux meilleurs attaquants de cette série-là. Es-tu d'accord?
J'ai beaucoup aimé le réveil de Philippe Dano, là, particulièrement.
Oui,
là, je pense que ça a fait une différence pour, excusez l'expression, achever les Pingouins, mais je reviens sur Suzuki et Kotkaniemi. Kotkaniemi, ce que j'ai aimé dans son jeu particulièrement, c'est que c'est l'audace. Même s'il a seulement 19-20 ans, là, premièrement, physiquement, il a pris du coffre un peu. Là.
Oui.
On sait qu'à cet âge-là, quand les jeunes s'entraînent là, à haut niveau, ça peut aller vite. Là. Alors lui, il s'est allé vite. Puis il a ajouté un élément, un petit peu de robustesse dans son jeu. Il a ajouté un peu d'aspect physique. Parce qu'oubliez pas, là, regardez-le attentivement, Kotkaniemi, là, à maturité physique, il va ressembler à Matt Sundin là, quand il va avoir 25-26 ans. Là. Alors, ouais, ça va être un homme, là, ça va être un physique quand même assez imposant. Puis là, il s'en sert. Ça, moi, j'ai trouvé ça intéressant. Ce que ça a fait, là, c'est que ça lui a donné confiance. Parce que dans la Ligue américaine, là, quand il a passé par là, là, entre autres, quand il s'était blessé, c'est parce qu'il courait après le dur à cuire de l'autre équipe. Très mauvaise idée, là.
Ouais,
d'ailleurs,
ouais,
il a,
ouais,
payé le prix parce qu'il s'est blessé, là. Mais en même temps, cet aspect-là qu'il a ajouté, le mis dans la game en bon québécois. Et dans le cas de Suzuki va faire bien des affaires sur la glace pour le Canadien. Quand il sera pas en position de marquer des buts, ça va être un joueur suffisamment intelligent pour contrôler sa zone, pour alimenter ses ailiers. Alors lui, quand l'expérience commence à rentrer, là, lui, il lève d'une coche parce qu'il a déjà un bon ordinateur pour jouer au hockey. C'est un bon passeur. Là, c'est sûr que dans le prochain tour, là, que ce soit contre les Flyers ou le Lightning, là, Suzuki va être vraiment exposé. Kotkaniemi va être aussi exposé parce que je pense que les prochains adversaires du Canadien, que ce soit Tampa ou Philadelphie, ce seront des équipes encore mieux équilibrées que les Penguins de Pittsburgh.
Ouais.
Ils n'ont peut-être pas de Crosby ou de Malkin, ben, en fait, de Tampa aussi, des joueurs vedettes, là. Mais ces équipes-là sont mieux équilibrées. Mmh. Ça veut dire que dans le cas de Kotkaniemi et Suzuki, il va falloir aller juste une petite vitesse en haut pour pouvoir bien faire contre les prochains adversaires.
Mais il va falloir aussi, dans une certaine mesure, que certains des joueurs qui les entourent, qui sont de jeunes vétérans,
ouais,
montrent leur jeu d'un cran. Je pense en particulier, on pourra en nommer quelques-uns, mais
ouais,
je pense en particulier à Jonathan Drouin
Domi
et à Max Domi,
ouais,
qui n'ont pas performé sa tête là, dans cette série qualificative.
Non, Domi a été le moins utilisé hier avec 10 minutes là, parmi les attaquants. Ça, c'est sûr que ça fera pas son bonheur, mais je pense que pour l'instant, il n'a pas le choix de prendre sa pilule. En série, c'est un peu comme ça que ça se passe. Il va devoir forcer Claude Julien à l'utiliser. Moi, je serais pas surpris qu'à un moment donné, on le voit apparaître à l'aile. Là. Je serais pas vraiment surpris de ça. En plus de Drouin, moi, j'ajouterais j'ajouterais Joel Armia. Moi, je pense que Joel Armia a pas ajusté son jeu au niveau des séries de fin de saison. Et ça, contre Tampa ou les Flyers, ça va être inévitable. Le Canadien va avoir besoin de ces gars-là et de Joel Armia. Ouais. Armia, c'est un gars qui peut utiliser son physique pour contrôler la rondelle, se faire de la place sur la patinoire. Mais là, actuellement, il y a pas le niveau d'intensité que ça prend pour être bon en série.
Ouais. J'avais presque envie de te nommer aussi Tomáš Tatar. Ouais. Tatar qui marque pas de but, je vais te dire, en affaire, ça ne sert pas à grand-chose.
Il sert à rien s'il ne score pas ou il produit pas.
Tatar a un peu mieux joué hier. Il avait un peu mieux joué également lors du match numéro 3 de la série. Espérons que ça va continuer à monter, que ça va continuer à augmenter ses performances. Mais effectivement, dans les deux premiers matchs, il a été à peu près absent.
On en a parlé un petit peu, Martin, tantôt, des défenseurs du Canadien, le Big Three version 2020. Mais vraiment, oui. Weber, Petrie et Chariot ont joué du gros hockey dans cette série-là. Et puis ça, c'est trois gars que Marc Bergevin est allé chercher. Tu sais, souvent, on dénonce ce qu'a fait Bergevin au fil des ans. Puis il en a fait, ouais. Il en a pris des mauvaises décisions, il en a pris des bonnes également. Mais ça, faut saluer le fait qu'il est allé chercher ces trois gars-là et qu'ils ont performé en série en plus.
Effectivement, puis tu fais bien de le mentionner. Dans le cas de Weber, je pense que ça restera toujours sa meilleure transaction. On voit ce que Piqué, malheureusement, n'offre plus le rendement qu'il a offert. En fait, il a pas été le défenseur qu'il était à Montréal depuis qu'il a quitté le Canadien, à part peut-être une saison à Nashville. Dans le cas de Weber, on sait le leadership qu'il a amené que Piqué n'aurait probablement pu être capable d'amener. Dans le cas de Jeff Petrie, je pense que c'est aussi l'une de ses meilleures transactions. Les Oilers d'Edmonton étaient prêts à aller le reconduire à l'aéroport quand ils ont fait la transaction. Ça a été un choix de deuxième ronde très bien investi. Là, il va falloir le signer, par contre, là, puis j'espère qu'on ne commettra pas l'erreur qu'on a commis avec Radulov. Je pense que ce gars-là est indispensable aux Canadiens, oui. D'autant plus que éventuellement, je pense que son partenaire va devenir Romanov. Là. Ça pourrait faire une bonne paire puis compléter un top 4 solide. Puis dans le cas de Ben Sherrod, il faut dire que Marc Bergevin l'avait repéré dans la Ligue américaine. Ça fait longtemps que Bergevin aimait Ben Sherrod. Ben Sherrod avait joué pour le club-école des Jets à Terre-Neuve dans la Ligue américaine. Et c'est là que Bergevin, entre guillemets, est tombé un peu en amour avec le jeu de Ben Sherrod. Un gars, un old school, là, défenseur de vieille école. C'est exactement le genre de joueur qu'aime Bergevin. Il avait pris en note le jeu de Sherrod. Et quand les Jets de Winnipeg ont eu des problèmes de masse salariale puis qu'ils savaient qu'ils ne le signeraient pas, eh bien, Marc Bergevin a lâché un coup de fil à Ben Sherrod. Puis Sherrod a été séduit tout de suite par l'offre du Canadien parce que ça lui permettait d'avoir des meilleures minutes de jeu. Puis lui, vous savez qu'il y a une particularité. Hein? Quand il a signé son contrat avec le Canadien, puis généralement, c'est comme ça que ça se passe. Les gars négocient le contrat, les agents. Puis à la toute fin, là, quand on est presque rendu à la poignée de main, on a le montant d'argent, on a les années. Là, l'agent dit, « Ah, écoute, on aimerait ça avoir une clause non-échange ou une clause restrictive. » Souvent, c'est comme ça que ça arrive. C'est la dernière clause qu'on négocie. Okay. Ben, sachez que Ben Sherrod est probablement un des seuls joueurs de la Ligue nationale à s'être négocié une clause restrictive qui fait en sorte qu'il ne peut pas être échangé à aucun club américain.
Ah, ouais. Ah, lui, il voulait absolument jouer au Canada.
Ben Sherrod a fait mettre une clause dans son contrat qui restreint le Canadien à une transaction seulement à l'intérieur des autres clubs canadiens.
Ah, ouais, puis il jouait à Winnipeg avant, ça a du sens.
À Winnipeg avant.
Ah, ouais, intéressant.
C'est particulier, pareil. Je connais, tu me l'apprends, Martin, mm-hmm. Je savais pas ça.
Ben, écoute, vraiment, c'est pas. Je pense que c'est sur 700 joueurs dans la Ligue nationale, ça doit être le seul qui a cette clause-là.
C'est bon, ça. Ben, qu'est-ce que tu veux? Il aime ça payer de l'impôt. Ça se peut, il a le droit, là. Il aime ça, la neige, plus impôts. Il a le droit. Là, Martin, c'est la partie des Flyers contre le Lightning. C'est aujourd'hui, cette partie-là, donc, qui va déterminer si le Canadien joue contre l'une ou l'autre des autres équipes, c'est ça?
C'est à 20h ce soir. Okay. Alors, le gagnant de ce match-là va déterminer de qui sera le prochain adversaire du Canadien, parce que dans la structure qu'on a créée pour le retour au jeu, là, dans ce qui a été négocié avec les joueurs, c'est que oui, on acceptait des équipes, mais on a fait en sorte que les équipes de tête ne soient pas désavantagées, ouais, et que toujours, si jamais il arrivait ce qui est arrivé, là, ce que l'association des joueurs disait qui était pour arriver quand ils ont négocié, là, c'est-à-dire que des équipes comme Montréal puis Chicago, qui sont les dernières qualifiées, se faufilent, là, ben, ce qu'on voulait faire, c'est faire en sorte que ceux qui ont eu une bonne saison et que ceux qui se sont retrouvés à la tête des deux conférences ne soient jamais désavantagés. C'est-à-dire que peu importe le scénario, plus ça va avancer, c'est toujours la meilleure équipe classée qui va se retrouver contre le Canadien.
OK. Ça sera pas facile pour nous autres, mais je prends pour qui, non, moi, ce soir, Martin?
Oui, c'est ça.
Si je veux que le Canadien peut-être fasse un bout de chemin, j'aime-tu mieux qu'il joue contre les Flyers?
Le Canadien a mieux joué contre le Lightning, mais n'a pas plus gagné contre le Lightning. Mais ils ont mieux joué contre eux. Les Flyers de Philadelphie ont l'avantage sur le Canadien, mais quand ils jouent sur leur propre patinoire. Là, c'est une patinoire neutre. Alors, peut-être que le Canadien, qui ne joue pas bien à Philadelphie, aura, je vous dirais, ce serait grossier de dire un avantage, mais au moins, ça sera pas un désavantage, parce qu'ils seront pas obligés d'aller jouer dans un aréna où ils ont pas de succès. Ouais. Honnêtement, là, vous appuierez l'équipe que vous voulez, parce que je suis complètement sûr que la prochaine série va être un défi encore plus important pour le Canadien que ça ne l'a été face aux Pingouins, là, sans manquer de respect à une équipe comme les Pingouins.
Et petite précision, Martin, pour ce qui est du repêchage, maintenant, le Canadien est assuré de ne plus repêcher parmi les 16 premiers, c'est ce qu'on comprend?
C'est ce qu'on comprend, et bien évidemment, ils ont été exclus de la loterie Lafrenière.
Oui, oui, oui.
Alors, la loterie Lafrenière, soit dit en passant, qui aura lieu après-demain.
Il va-tu se ramasser à Pittsburgh ou Edmonton?
Ben, écoutez, Pittsburgh, Edmonton, il y a encore une chance de jouer à Toronto. Il y a une chance de jouer en Floride. Vraiment, là, lui et son agent, là, ils doivent être assis aujourd'hui puis regarder ça, là, et se dire qu'ils s'en sortent pas trop mal.
Ouais.
C'est vu de même, là.
Ouais. Et puis même les
non,
Coyotes,
parce que vraiment,
les Coyotes ont éliminé
qu'il y avait un courant de pensée. Il y avait un courant de pensée qui disait que le clan Lafrenière ne souhaitait pas vraiment se retrouver à Montréal.
Ouais.
Puis savez-vous quoi? Moi, j'ai pas d'informations en ce sens-là, mais je les comprends.
Ah ouais?
On peut-tu le blâmer, là?
Je les comprends parce que bien évidemment, je pense que la façon dont il va être entouré, les équipes qu'on a nommées versus le Canadien, je pense qu'il n'y a pas photo, là. Il va être mieux entouré dans certaines de ces équipes-là. Puis savez-vous quoi? Pour lui, ça va peut-être être moins compliqué ailleurs qu'à Montréal. Quoique, moi, j'ai toujours dit la même chose. Les joueurs de caractère n'ont pas de difficulté à jouer à Montréal. Puis je présume pas que Lafrenière en a pas, là. Je pense que c'est une de ses qualités. Mais vraiment, là, à partir d'aujourd'hui, sachant que le Canadien n'est pas dans la loterie, je suis convaincu que dans son entourage, on se dit, OK, ça va être juste plus simple.
Ouais, peut-être plus simple. OK, hey, merci Martin d'avoir pris du temps. Puis on va continuer de suivre le parcours du Canadien de Montréal à l'antenne de Cogeco avec Danny et toi à la description des matchs. Merci, salut Martin. Merci,
certainement,
Martin.
Bonne journée.
Bye, Martin. Bye. McGuire, descripteur des matchs du Canadien. Sur les ondes du réseau Cogeco.
Toi, moi, Paul, tu souhaites le Lightning ou les Flyers?
Moi, j'aimerais ça... Là, ça va être niaiseux, mais j'aimerais ça les Flyers parce que moi, je suis un partisan du Canadien. Puis j'aimerais ça que le Canadien batte Michel Therrien. Moi, bon, c'est ça que j'aimerais.
Et même Alain Vigneault.
Non, mais j'aimerais ça.
Principalement que, Michel Therrien.
Moi, ce que j'aime, c'est les histoires. Non, mais tu sais, ouais. Moi, je suis un fan de sport, un fan d'histoire sportive. Fait que tu sais, les Raptors en série l'an passé, j'ai commencé à regarder ça à peu près au quart de finale.
We the North.
Je manquais rien, puis je tripais, là, tu sais. J'ai failli aller à Toronto avec des chums.
C'est un opportuniste sportif.
Exactement. Parce que c'est ça qui est le plus trippant, dans le fond, c'est les histoires. C'est-à-dire que je me dis, si le Canadien avait... Tu sais, par exemple, dans la série contre les Pingouins, ben le petit affrontement entre Sidney Crosby et Carey Price, moi, je trouvais ça intéressant, parce que c'est une histoire. C'est deux joueurs qui ont à peu près le même âge, qui sont...
Un même repêchage.
C'est ça, puis c'est le gros joueur de l'équipe, c'est le joueur de concession.
Si t'as remarqué, hier, ils se picossaient, les deux, hein?
Exact.
Maman, c'est arrivé assez souvent, ou même Price, à un moment donné, a donné un petit coup de bloqueur à Crosby,
ben oui.
Les deux se sont
Crosby,
parlé,
un petit coup de bâton.
Il y avait une petite rivalité, là.
Ils leur ont posé des questions en conférence de presse là-dessus. Price a répondu, c'est juste deux compétiteurs.
Ouais, ouais.
Les deux qui veulent gagner, mais on se respecte beaucoup. Ils ont joué ensemble pour équipe Canada, tu sais, c'est des gars qui se connaissent. Moi, ça, j'aime ça. ce bout-là de la patente.
Je comprends.
Donc, de savoir que tu as une espèce de trio de coachs québécois à Philadelphie, ouais. Michel Therrien, Alain Vigneault et
Yann Laperrière, je pense,
dont deux qui ont été coachs de Canadiens. Laperrière n'a pas joué pour le Canadien aussi.
Non, malheureusement. Il a fini avec les Flyers. Là, mais
bref, tu sais, ça, pour moi, c'est un bout de l'histoire. Claude Julien de l'autre côté.
Mais c'est deux coachs qui connaissent beaucoup le Canadien. Ça pourrait peut-être les désavantager.
Ça pourrait nuire. Ouais. T'as raison.
Je pense que la meilleure chance du Canadien de passer à rond du ventre, ce sont les Flyers. Le Lightning, il y a eu une erreur de parcours l'an dernier, j'en conviens.
Ah, c'est des chokers. Moi, je trouve vraiment que c'est des chokers. On dirait que cette année, ça ne semble pas être le cas. Puis ils ont le couteau entre les dents, puis ils veulent pas répéter les mêmes erreurs que l'année dernière. Mais
Kucherov, s'il se réveille du bon bord du lit, là, ça peut être difficile.
Ouais, c'est l'avantage numérique, en fait. Il passe pas Kucherov.
Il était où Malkin en série? Les Russes en série, là, à part Ovechkin.
Mais ça, c'est une vieille affaire. Les Russes en série, on pourrait dire la même affaire.
Il était où Kucherov l'an passé?
Connor McDavid vient de perdre. Sidney Crosby vient de perdre.
Il vient de perdre, mais il a fait 8 points.
John Tavares pourrait perdre ce soir. À un moment donné, les Russes, là, c'est comme un peu une légende.
Ouais, on a des preuves à l'appui quand même.
Mais ce qui me fait peur, moi, du Lightning, dans l'avantage numérique, là, c'est que, puis là, je veux pas tomber trop dans le graphique, dans le technique, pour les gens qui suivent un peu moins le sport, là, mais pas compliqué, à 5 contre 4, là, il installe Kucherov d'un bord, Stamkos de l'autre. Ouais. Kucherov, il est gaucher, fait qu'il l'installe à droite, finalement, là, à gauche du goaler, mais pour être sur réception, le bâton va vers l'angle.
C'est un peu ce que les Pingouins faisaient.
Ils vont faire la même affaire avec Stamkos. Ouais, mais eux autres, là, le Lightning, c'est pas compliqué, ils font juste tirer sur réception.
Ouais, c'est vrai.
T'as un défenseur à pointe qui va être Victor Hedman, là. Il va en envoyer un d'un bord, il va essayer la passe qui traverse. Ça va tout le temps être des tirs sur réception. Et il les rentre tous.
Mais Paul.
Stamkos, Kucherov, je sais pas son nez et quelle espèce de don, là, mais eux autres, là, envoyer une puck à 100 000 à l'heure sur réception dans un trou gros comme une rondelle écart, sont capables.
Fais confiance à Jesus Price.
Ouais, ça me tente pas, moi, ça.
Autre chose, maintenant, à savoir qui va repêcher Lafrenière, on le sait pas, on va le savoir lundi, là. Mais si c'est une des grosses équipes dont on a parlé, là, Pittsburgh, Toronto, Edmonton, peut-être que ce ne sera pas Lafrenière, mais il y a quelqu'un ou un groupe de joueurs dans ces équipes-là qui va y passer. Parce que ces équipes-là ont des besoins particuliers à les remplir. Puis dans le cas de Toronto puis d'Edmonton, il est clair.
C'est la défense.
C'est la défense. Puis là, ça, c'est un stud à l'avant. Fait que ça, tu l'amènes, puis tu te départis d'autres choses pour aller chercher. Ou peut-être que ces deux équipes-là n'ont pas nécessairement... Là, comprenez-moi bien, là, tout le monde a besoin d'un Lafrenière, mais mettons qu'ils n'ont pas besoin précisément d'un Lafrenière parce qu'ils ont des joueurs déjà d'exception à l'avant. Lafrenière vaut quoi pour des défenseurs? Tu as parlé d'Edmund il y a un instant. Là.
Écoute.
Il vaut au moins un Edmund avec un premier choix, mettons. Ouais. Là. Hey, ces équipes-là pourraient combler des besoins criants
c'est vrai.
Avec une espèce de glitch dans les règles de cette année.
Ou les Sénateurs qui ont les choix 3 et 5 pourraient transiger avec les Pingouins pour avoir le premier choix. Par exemple. Mais là, on est dans les 6 pas mal.
Là, il va falloir absolument qu'on prenne une pause parce qu'on a pris un peu de retard. Mais au retour, je veux continuer de parler de ça parce qu'il y a une affaire là, que Martin a dit concernant... Puis je sais qu'il y a beaucoup de gens, plein de textos, je les lis, qui nous disent « Hey, en tout cas, c'est une chance pour Lafrenière à Montréal, il se ferait rincer. » Moi, savez-vous quoi? Je suis pas d'accord avec l'affirmation suivante. À Montréal, c'est plus difficile pour les Québécois que pour les autres.
Oh!
Pas d'accord avec ça.
J'ai hâte de t'entendre.
Fait que je vous donne toutes mes explications. Vous pouvez commencer tout de suite à me ramasser par texto si vous voulez. Mais je vous explique au retour de la pause pourquoi